Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Forte tension à Kaboul, la capitale afghane a subi ce matin sa quatrième attaque en 10 jours, des attentats commis par l'État islamique et par des talibans. Au Yémen, la coalition menée par Riyad appelle à des négociations entre le gouvernement et les séparatistes. Il y a eu au moins 24 morts dans la grande ville d'Aden en 2 jours de combat. La Norvège en route vers le tout électrique. Les véhicules électriques ou hybrides ont représenté plus de la moitié des ventes de voitures neuves en 2017, c'est le dossier de ce journal. L'autorité de sûreté du nucléaire note des signes d'amélioration en un an, mais elle se montre réservée sur le calendrier de démarrage de l'EPR de Flamanville. L'État islamique et les talibans ont renforcé leurs offensives sur Kaboul ces derniers jours. La quatrième attaque en 10 jours s'est produite ce matin. 2 kamikazes se sont fait exploser devant l'Académie militaire d'Afghanistan. 11 soldats afghans ont alors trouvé la mort. Comment expliquer cette surenchère dans les attaques? Écoutez l'analyse de Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul.
Ces attaques répétées dans un laps de temps court est assez exceptionnel. Le pays fait face aux attaques venant du groupe terroriste État islamique et des talibans. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque contre l'ONG britannique Save the Children à Jalalabad dans l'est du pays il y a quelques jours est aussi derrière celle d'aujourd'hui contre l'académie militaire du maréchal Fahim. Le groupe terroriste qui s'est implanté dans l'est du pays il y a 3 ans a ainsi visé la plus grande institution militaire d'Afghanistan, étendue sur 45 hectares, 4000 personnes à l'intérieur. C'est la plus prestigieuse. Les militaires du grade d'officier à celui de général y sont formés. À la menace que représente l'EI s'ajoute celle des insurgés talibans qui ont revendiqué l'attaque contre l'hôtel intercontinental à Kaboul il y a 10 jours. Ils sont aussi les auteurs de l'attentat à l'ambulance piégée de samedi en plein centre de la capitale, qui a coûté la vie à une centaine de personnes au moins. Une spirale de violence semble avoir été enclenchée. Elle intervient quelques semaines après que le président américain Donald Trump a durci le ton vis-à-vis du Pakistan voisin, accusé de ne pas combattre les terroristes qui se réfugient sur son sol. Les raids américains se sont multipliés ces derniers mois contre les positions de l'EI dans l'est et dans le nord de l'Afghanistan et contre les positions des talibans, notamment dans les zones tribales pakistanaises. Le Pakistan est régulièrement accusé de ne pas combattre le terrorisme sur son sol qualifié de repère de terroristes par Washington. Après ces attaques successives, les insurgés montrent leur capacité à frapper fort à n'importe quel moment et n'importe où, déstabilisant un peu plus chaque jour un gouvernement fragile aux nombreuses dissensions internes.
De violents combats se poursuivent à Aden. Ils opposent les séparatistes sud-yéménites aux troupes fidèles au gouvernement en exil. L'Arabie saoudite, qui soutient les forces loyales au président yéménite, appelle maintenant à des négociations entre les belligérants. De son côté, la France condamne les violences. Paris appelle toutes les parties à accorder un accès sans entrave à l'aide humanitaire et à reprendre le dialogue pour trouver une issue au conflit. L'accès à l'aide humanitaire reste très problématique, constate effectivement François Frison-Roche, chercheur au CNRS, spécialiste du Yémen.
Une spécificité de la crise humanitaire au Yémen, c'est que la majorité de la population se trouve au nord, donc en quelque sorte sous le contrôle des Houthis. Et là, l'aide humanitaire devait passer par le port sur la mer Rouge d'Hodeïda. Alors, le port d'Hodeïda est sous contrôle des Houthis, mais régulièrement, il était bombardé par l'aviation de l'Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite avait promis de lever le blocus. L'Arabie Saoudite a aussi promis d'ouvrir un pont aérien vers une région plutôt du centre du Yémen, vers Mareb. Et donc, là, il pourrait y avoir de l'acheminement. Et donc, vous voyez que la crise humanitaire qui concerne environ 12 millions de personnes, sans compter l'aide médicale pour le million de Yéménites qui est atteint de choléra, va poser énormément de problèmes, car si les ports restent bloqués, comme à Aden, ou en voie de règlement à Hodeïda, parce que les Houthis chercheront évidemment aussi à se servir, cela va poser d'énormes problèmes aux organisations humanitaires pour pouvoir décharger et acheminer cette aide humanitaire.
François Frison-Roche répondait à Benoît Bouscarel. Brexit, mode d'emploi. Après avoir précisé les modalités du divorce, les ministres des Affaires européennes étaient réunis aujourd'hui à Bruxelles, sans la Grande-Bretagne, pour discuter de la période de transition qui suivra le Brexit. Quentin Dickinson, vous êtes en direct de Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Alors cette période va durer 21 mois, de mars 2019 à décembre 2020. Et la règle retenue est simple, Quentin. Pendant cette période de transition, Londres va être traité comme un État membre de l'Union, mais sans pouvoir de décision.
C'est cela. Et les lignes directrices qui sortent de la réunion ministérielle ici aujourd'hui sont en effet particulièrement claires et dures à avaler pour les dirigeants britanniques. Plus précisément, au cours de cette période de transition de 21 mois, le Royaume-Uni continuerait à appliquer l'ensemble des directives et règlements de l'UE comme si de rien n'était, en tenant compte scrupuleusement de toute modification du texte nouveau qui serait adopté pendant la transition. Comme tout État membre de l'UE, ce qu'il ne sera plus, il acquitterait ses contributions au budget commun et il lui serait interdit de signer des accords douaniers ou commerciaux avec des pays tiers. Et ce serait à la Cour de justice européenne à Luxembourg de trancher tout éventuel litige. En revanche, le Premier ministre britannique ne serait plus convié au sommet régulier, aucun ministre britannique ne siégerait plus au Conseil de l'UE, il n'y aurait plus de commissaire britannique ni de député britannique au Parlement européen. On comprend donc tout l'inconfort de cette situation où le Royaume-Uni continuerait à connaître les contraintes mais aussi quelques avantages liés à la qualité de pays membre, mais sans avoir de près ni de loin la possibilité d'infléchir les politiques qui lui seraient imposées. On comprend aussi la dynamite politique que ces fourches caudines représenteraient pour le gouvernement et pour le Parlement britannique.
Quentin Dickinson à Bruxelles, merci beaucoup. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone sont reparties à la hausse. Après 3 années de stagnation, une nouvelle étude confirme le phénomène. Les émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles auraient augmenté de 2% l'an dernier, à cause surtout d'une consommation de charbon plus élevée. Dans ce contexte, on peut saluer les efforts du plus gros producteur de pétrole et de gaz d'Europe occidentale, car, paradoxalement, la Norvège est aussi le champion du monde des voitures électriques. Ces dernières années, les ventes de véhicules électriques ou hybrides ont explosé. En 2017, elle représentait la moitié des ventes de véhicules neufs et la Norvège ambitionne de transformer tout son parc automobile en une décennie. Le reportage de Grégory Tervel à Oslo.
L'essor spectaculaire des voitures électriques en Norvège s'explique avant tout par les avantages très significatifs offerts à leurs utilisateurs. Possibilité d'emprunter les voies de bus pour éviter les embouteillages, gratuité des parkings et des péages urbains. Maria est une conductrice ravie.
Rien que sur le péage urbain à l'entrée d'Oslo, je gagne environ 100 euros par mois. Je ne paye pas non plus la vignette auto et les parkings publics sont gratuits. Et puis il y a le carburant que je ne paye plus. J'ai calculé qu'une recharge pleine de ma voiture électrique chez moi me coûtait entre 50 centimes et 1 euro. Vous pouvez comparer avec les pleins d'essence ou de diesel. Pour moi, la voiture électrique, c'est vraiment une très grosse économie.
Et ce n'est pas tout, c'est à l'achat qu'on bénéficie de la mesure la plus intéressante financièrement. Pas de TVA ni d'autres taxes pour les voitures électriques ou hybrides, ce qui rend leur prix tout à fait compétitif avec celui des voitures diesel ou essence de même standing. Une voiture neuve sur deux vendue aujourd'hui en Norvège est électrique ou hybride. Christina Bu dirige l'association des voitures électriques en Norvège.
Personne n'avait imaginé que le développement des ventes se ferait aussi rapidement, pas même nous. La raison principale, c'est que les constructeurs automobiles se sont enfin décidés à produire les voitures électriques que les gens voulaient. Des voitures dignes de ce nom, avec une autonomie intéressante, car les mesures d'incitation, elles sont là depuis bien longtemps en Norvège. Encore aujourd'hui, la demande est largement supérieure à l'offre. Les listes d'attente sont très longues pour les nouveaux modèles et les voitures électriques d'occasion se vendent immédiatement.
L'effet sur les réductions d'émissions de CO2 est d'autant plus intéressant que la Norvège produit toute son électricité de manière propre grâce à l'énergie hydraulique. Lars Andreas Lunde est secrétaire d'État sortant au ministère du Climat et de l'Environnement. Il réfute l'idée selon laquelle la Norvège s'achèterait une image verte avec cette politique tout en continuant de beaucoup polluer avec son industrie pétrolière.
En tant que pays exportateur de pétrole, c'est vrai que nous allons à l'encontre de nos propres intérêts avec cette politique, puisque le secteur du transport est notre principal acheteur de pétrole. Mais nous pensons qu'il est important que la Norvège prenne elle aussi sa responsabilité en matière de climat. Nous savons que pour atteindre nos objectifs climatiques, il faut s'attaquer au secteur du transport. Cette politique d'exemption de taxes pour les véhicules électriques représente un manque à gagner fiscal pour l'État, mais c'est surtout parce que nous taxons beaucoup les voitures à la base. En fait, nous sommes en train de transférer les taxes sur les véhicules qui polluent.
Tous les partis politiques norvégiens se sont engagés sur l'objectif que plus aucune voiture neuve, diesel ou essence, ne soit vendue en Norvège en 2025. Le tout électrique dans seulement 7 ans Plus personne aujourd'hui ne pense que c'est irréaliste.
Autre illustration du rôle pionnier de la Norvège dans l'électrification des déplacements, en 2040, le transport aérien court-courrier devrait utiliser exclusivement des avions 100% électriques. Selon Avinor, l'organisme public chargé de la gestion des aéroports norvégiens, tous les vols de moins d'une heure et demie peuvent être couverts par des avions totalement électriques. La sûreté nucléaire progresse en France. En ce début 2018, l'autorité de sûreté nucléaire juge le contexte moins préoccupant. Une partie des irrégularités de l'usine Framatome du Creusot a été réglée. De même que la question de la teneur en carbone excessive de certains équipements, à Flamanville notamment. L'EPR, justement, doit ouvrir fin 2018. C'est du moins ce que prévoit l'État. L'ASN est plus prudente sur ce calendrier de redémarrage de l'EPR, Véronique Reberotte.
C'est la bonne nouvelle pour la filière nucléaire cette année, le démarrage à la fin 2018 de l'EPR de Flamanville, avec 6 ans de retard et un coût multiplié par 3 pour atteindre les 9 milliards d'euros. L'autorité de sûreté nucléaire a considéré que la cuve de Flamanville ne présentait plus un problème, tout en considérant que le couvercle de cette cuve ne pourrait être utilisé au-delà de 2024. Un nouveau point doit être fait cet été, avec d'ici là la transmission par EDF de nombreux documents de conformité, des documents qui devront être ensuite analysé par l'autorité de sûreté nucléaire, son président Pierre-Franck Chevet.
Une telle mise en service est soumise à l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire. On ne la délivrera que quand on aura toutes les garanties. Donc il est normal que l'exploitant ait un calendrier industriel, c'est comme ça qu'on mène un projet. Nous ferons notre travail de notre côté, et tant qu'on n'aura pas la conviction que c'est bon, on ne donnera pas l'autorisation, ce qui retarderait d'autant le calendrier. Pour l'instant, ce que je peux dire, on n'a pas tous les éléments à ce stade, c'est que le calendrier est très tendu. EDF annonce à peu près la fin de l'année. Moi, je ne sais pas garantir au mois après ou à quelques mois après que tout sera bien, tout simplement parce qu'on n'a pas tous les éléments pour l'instant.
En tout cas, les problèmes d'excès de carbone, vous dites là, à Flamanville ou ailleurs, d'ailleurs, sont réglés.
Effectivement, les difficultés qui ont été rencontrées sur la cuve de l'EPR, notamment l'excès de carbone qui potentiellement la fragilise, ceux-là ont été traités. Aujourd'hui, je considère pour la France que c'est un sujet qui est derrière nous.
Si le démarrage de l'EPR de Flamanville venait encore à être repoussé, la fermeture des 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim serait elle aussi retardée. Les 2 événements sont conditionnés.
Concernant le projet de stockage de déchets nucléaires de Bure dans la Meuse, l'ASN estime qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante. Sa seule réserve à l'égard du projet Cigéo concerne les déchets bitumineux. Le secrétaire d'État à l'écologie, Sébastien Lecornu, s'est justement rendu sur place aujourd'hui. Il a rencontré les élus locaux et visité le laboratoire de l'Agence de gestion des déchets radioactifs, Anne-Laure Barral.
Cigéo, c'est la moins mauvaise des solutions en matière de gestion des déchets nucléaires. Voilà ce qu'est venu dire Sébastien Lecornu aux élus locaux de la Meuse et de la Haute-Marne qui accueilleront peut-être bientôt le futur site de stockage de nos déchets les plus dangereux, les plus chauds et ceux qui resteront radioactifs pendant des dizaines de milliers d'années. Un projet qui suscite des contestations avec depuis 2 ans de nouveaux militants installés dans un bois juste au-dessus du futur site. Sébastien Lecornu n'a pas rencontré ses opposants cette fois-ci, mais il sait que le projet ne fait pas l'unanimité.
Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de discuter lors de ma prochaine venue avec des associations ou avec des élus locaux qui sont des opposants au projet. Et c'est la moindre des choses. Comme à Fessenheim, sur un autre sujet, j'ai été amené à discuter avec des gens qui étaient opposés à la fermeture de la centrale.
En revanche, le secrétaire d'État à l'écologie est venu parler retombées fiscales, sécurité et projet de territoire avec les élus pour Christophe Bouillon, député et président de l'ANDRA, l'agence de gestion des déchets radioactifs. Le Grand Est a une carte à jouer avec ce site.
Si vous prenez une échelle plus large, l'échelle de la nouvelle région notamment, vous avez l'après Fessenheim, vous avez choses, vous avez un certain nombre, il y a une vraie filière énergétique qui peut se créer aujourd'hui.
Pas de remise en question du projet pour l'instant du côté du gouvernement, mais plutôt la mise en avant d'une cohérence de territoire pour lancer dans le Grand Est la filière française du démantèlement nucléaire et de la gestion des déchets.
Anne-Laure Barral avec Benjamin Chauvin à la technique. Le procès de Jawad Ben Daoud, jugé pour avoir logé des djihadistes du 13 novembre, se poursuit. Il comparaît avec 2 autres prévenus. Poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes, Jawad Ben Daoud continue de clamer son innocence. Et cet après-midi, c'était au tour de la défense de poser les questions. Florence Turm, vous avez suivi l'audience au tribunal correctionnel de Paris.
Votre position, c'est bien de dire « je n'étais pas au courant que c'était des terroristes », commence Xavier Nogueras. « Oui, exactement », répond en 2 mots Jawad Ben Daoud. L'avocat a préparé la séquence avec son client, mais le calme ne sera que de courte durée. Très vite, le prévenu s'emballe pour livrer des explications sans fin. « Je vais vous demander de vous concentrer », insiste Xavier Nogueras. « Où situez-vous le moment où vous comprenez que les auteurs de l'attentat viennent de Belgique. Jawad Ben Daoud prend une inspiration, appuie ses mains sur le pupitre devant lui, en garde à vue, dit-il. Pourquoi ne pas écouter votre mère quand elle vous appelle le jour de l'assaut et vous conseille de fuir ? Je suis au courant de rien, pourquoi j'irai me cacher ? La défense continue d'égrener les questions à charge. Jawad Ben Daoud a s'égaré. Je devais toucher 150 euros, mais même avec 3 zéros derrière, pour 150 000, des terroristes, je ne les aurais pas hébergés. Il enlève ses lunettes, se masse les yeux, revient sur ses conditions de détention, provoquant encore l'hilarité. Je vous le dis, il faut rénover la prison de Fresnes. Hier, j'ai trouvé un rat gros comme ça à ma fenêtre. J'avais un morceau de fromage, il s'est mis debout devant moi. L'interrogatoire touche à sa fin, marqué par un regain de tension, une vive altercation entre les deux prévenus sur l'un des points de contradiction, ce qui vient de conduire à une nouvelle suspension d'audience, le temps de retrouver un calme toujours illusoire.
Florence Turm, en direct du Palais de Justice de Paris. Le jour même où trois des quatre policiers mis en cause dans l'affaire Théo sont réintégrés, une vidéo de l'interpellation est rendue publique par Europe 1. Filmée par les caméras de surveillance d'Aulnay-sous-Bois, elle montre que le bas du jogging du jeune homme ne lui a pas été enlevé par les policiers comme il l'avait affirmé au début. Et le coup de matraque intervient dans un moment de grande confusion. Pour l'avocat d'un des policiers, cette vidéo vient invalider le récit du jeune homme qui dénonçait un viol collectif. Reste qu'il y a un geste de violence de la part d'un des policiers sur lequel celui-ci doit s'expliquer aujourd'hui, ajoute Maître Pascal Rouillet. Les Républicains appellent Gérald Darmanin à démissionner. Visé par une enquête pour viol, le ministre des Comptes publics n'a pour l'heure pas été mis en examen. Mais pour les Républicains, il n'a pas d'autre choix que de quitter le gouvernement. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir Aurélie.
Rappelons que Gérald Darmanin était membre des Républicains jusqu'à ce qu'il accepte un poste dans le gouvernement d'Édouard Philippe.
Oui, jusqu'à il y a 9 mois, il était l'un des cadres du parti Les Républicains. Il avait notamment dirigé la campagne de Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP en 2014. Et puis en mai dernier, il avait décidé de rejoindre Emmanuel Macron en acceptant un poste au gouvernement. Beaucoup chez LR le considèrent comme un traître et ils le lui rappellent aujourd'hui bruyamment en appelant à sa démission. Si le gouvernement en revanche lui accorde et lui confirme son soutien, contrairement à ce qui s'était passé en juin dernier avec les ministres Modem, c'est entre autres que le dossier d'accusation judiciaire, pour ce qu'on en sait et à l'heure où l'on parle, semble comporter un certain nombre de fragilités. D'abord, son accusatrice a déjà été condamnée pour des faits de chantage en 2004. Elle a déposé plainte en mai dernier, mais cette plainte a été classée sans suite car elle ne s'est jamais rendue à la convocation des enquêteurs chargés de prendre sa déposition malgré plusieurs relances de leur part. Ensuite, l'enchaînement des faits tels qu'elle les raconte à nos confrères du journal Le Monde et qui remonte à 2009 peut donner lieu à un certain nombre d'interrogations. Elle se laisse, selon ses dires, convaincre que Gérald Darmanin, qui a tout juste 26 ans, qui sort de Sciences Po, qui a décroché un poste de chargé de mission aux affaires juridiques de l'UMP, va pouvoir l'aider à effacer son casier judiciaire. En échange de quoi, elle aurait accepté un dîner, aurait ensuite accepté de suivre le jeune Darmanin dans un club échangiste, puis dans un hôtel, consciente de là où il voulait en venir, mais repoussant au maximum l'échéance, dit-elle. Alors, il ne faut évidemment pas présager de la suite de l'enquête préliminaire, mais pour l'heure, on n'en est pas encore à une mise en examen du jeune ministre.
Stéphane Robert, la France Insoumise lance une école de formation pour ses militants. Cours de philosophie, d'économie ou tutoriel de prise de parole en public. Cette structure a été lancée cet après-midi. But annoncé par la direction du mouvement, rendre possible la révolution citoyenne sans pour autant dispenser des éléments de langage. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Le but de cette structure est aussi de préparer les prochaines échéances électorales.
L'objectif est tout d'abord de former les adhérents, c'est-à-dire les près de 550 000 personnes revendiquées par le mouvement, c'est-à-dire celles qui ont cliqué sur la plateforme d'origine, JLM 2017, pour soutenir à l'époque la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République, puis plus largement pour soutenir la France insoumise aux législatives, puis depuis le mois de septembre. La très grande majorité de ces militants, sympathisants ou bien, et ce sont les plus nombreux, simples soutiens pendant la campagne, se sont très largement détournés depuis de toute forme de ferveur politique. Et l'idée avec ce projet est donc de les remobiliser en vue des prochaines élections et faire émerger en parallèle des personnalités capables d'être investies pour les futures échéances, le scrutin européen en 2019, puis les élections municipales en 2020. Cette école appelée EFI, pour École de Formation Insoumise, serait plutôt une plateforme en accès totalement libre et gratuit sur Internet. N'importe qui peut y avoir accès, adhérent ou non. Le projet s'articulerait donc de façon assez classique pour une école au cours d'un tour cours magistral une fois par mois en direct du siège du mouvement rue de Dunkerque dans le 10e arrondissement de Paris. Un cours devant un public a priori d'une trentaine de personnes, retransmis sur internet et suivi de questions de la part des internautes, en plus de la mise à disposition d'une série de vidéos pédagogiques, des tutos consacrés à l'activité militante plus concrète. Le premier cours aura lieu samedi, il sera donné par celui qui est présenté par le directeur des campagnes du mouvement comme le garde du corps de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Schneckenberger, enseignant et docteur en philo. Il aura 2 heures pour expliquer et argumenter autour d'une question, Aurélie, qu'est-ce que la philosophie insoumise ?
Merci Sophie Delpont. Demain, le temps sera maussade, en particulier au nord de la Seine. Il fera 1 à 8 degrés le matin, 8 à 15 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.